Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Hoop Culture. Avant qu'on rentre dans le sujet du jour avec Pierre Armand, je voulais en profiter, me permettre un petit message personnel. Voilà, l'un de mes anciens coéquipiers, Ahmed Taoufik, un ancien coéquipier de basket, a été victime d'un accident de voiture très sérieux il y a 2 ans, qui le laisse pour l'instant dans un fauteuil roulant et il est en train de chercher un financement pour un nouveau fauteuil électrique. Je sais qu'on est toutes et tous énormément sollicités à longueur de temps pour que la vie est dure déjà pour chacun, qu'il y a de nobles causes à défendre. Je sais que tout le monde n'a pas l'opportunité de participer. Je sais même que voilà, c'est toujours un peu particulier quand c'est pas forcément quelqu'un qu'on connaît, même si je pense qu'il y a des chances que vous ayez déjà croisé Ahmed et par son engagement, que ça soit pour le basket en général et plus particulièrement pour le basket en Afrique avec son association Enfants du Bénin Debout. Mais voilà, je me permets de vous passer ce message. J'ai mis un lien dans la description de cet épisode. Même si vous n'avez pas l'opportunité de participer financièrement, n'hésitez pas à envoyer de la force, un petit commentaire, à faire partager l'info tout simplement. On est une grande communauté dans le basket en France. Je pense que c'est bien quand on peut se serrer les coudes autour de causes telles que celle-ci. Juste pour vous dire 2 mots d'Ahmed, si vous ne le connaissez pas, voilà, c'est vraiment le genre de personne qui fait de vous quelqu'un de meilleur si vous avez eu la chance de croiser sa route. C'est l'un des coéquipiers avec lequel j'ai, voilà, j'ai une connexion super, l'un des intérieurs avec lesquels j'ai préféré jouer de tout le temps où j'ai été sur les parquets, et un mec en or. Donc voilà, je me permets ce petit message personnel, et puis on va pouvoir tout de suite rentrer dans le vif du sujet, Pierre Armand, puisque cette semaine, on va parler justement de Français, et notamment de Français qui ont joué en NBA, qui auraient pu jouer en NBA, qui ont eu des touches avec la NBA, bref, des Frenchies qui ont marqué aux États-Unis.
C'est vrai qu'on entend. Alors déjà, excusez-moi, vous voyez, j'ai une voix très Barry White, bien
C'est
malade
clair.
cette semaine. On parle beaucoup des Français et actuellement, ils ont une cote assez incroyable et on l'entend de plus en plus avec la draft à venir. On sent que l'arrivée de Victor a ouvert une nouvelle brèche qui était déjà pas vraiment fermée, mais en tout cas qui est de plus en plus ouverte puisqu'on parle de Français, de Français dans le top 3 sur les mock drafts diverses et variées dont on parle en ce moment. Donc c'est une fierté incroyable, mais il faut savoir qu'avant d'en arriver là, ça a été pas un long fleuve tranquille, pas un chemin de croix non plus, mais bon, il a fallu batailler avant d'en arriver à la situation actuelle et au fait de voir tous ces Français s'épanouir en NBA, parce que c'est vraiment le cas et on va le voir, il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi à s'épanouir ou qui n'avaient pas forcément envie de s'y épanouir, mais en tout cas aujourd'hui, on voit une génération qui s'y plaît, qui s'y amuse et tout ça nous donne de grands espoirs, en tout cas pour les compétitions internationales à venir.
Ouais, c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que pendant très longtemps, quand on était basketteur en France, on avait un petit complexe d'infériorité par rapport aux autres grandes nations européennes, par rapport aux États-Unis, bien entendu. Et puis, bah, il faut voir que depuis 20 ans maintenant, la France est l'un des principaux, comment dire, pourvoyeurs de talents pour la NBA. Il y a pléthore de joueurs qui ont été draftés, qui ont joué là-bas. Pour la prochaine draft 2024, il y a pas moins de 3 joueurs qui sont annoncés potentiellement au premier tour et notamment deux dont la place dans les mock drafts oscille entre la première et la 8e place en gros entre Alexandre Sarr et Zachary Risacher. Moi, je t'avoue que quand j'étais gamin, jamais, jamais j'aurais imaginé que la France puisse prendre cette place un jour dans le basket mondial.
Non, impossible, impossible. C'est vrai que le tournant, beaucoup disent que c'est 1992 et l'envie que ça a pu donner, et puis l'arrivée du phénomène streetball, bien sûr, où les gens ont eu envie de jouer, et puis il y a eu une dimension physique qui a été prise dernièrement. C'est vrai que aujourd'hui, la cote du français, elle est là parce qu'il y a une dimension athlétique chez les Européens qui est à nul autre pareil, pratiquement. Et puis, une facilité aussi à se fondre dans le moule NBA, alors grâce, encore une fois, à une mentalité particulière qui a été amenée par plusieurs. Et aujourd'hui, bah, personne n'a à rougir. Et le rêve NBA aujourd'hui, on se rend compte dans la tête de gamin, c'est plus forcément un rêve, c'est un objectif tout court. Et ça, c'est fondamental de penser comme ça, de se dire, Tony Parker l'a dit. Lui, il rêvait grand. Aujourd'hui, non, non, nous, on veut jouer là-bas, on ira là-bas. Et on a des gamins qui, à 13 ans, quand on leur pose qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, c'est pas être pro, c'est la NBA. Alors qu'avant, on disait ça, on te riait au nez, c'était absolument impossible. Et quand je dis avant, c'est il y a pas si longtemps que ça.
Oui, non, mais tu as tout à fait raison. C'est vrai que maintenant, pour un prospect français, c'est logique et normal de
Oui,
se
oui.
présenter à la draft et même voire d'être drafté.
Bien
Y
sûr.
faire carrière, c'est autre chose, alors qu'à l'époque, c'était quasiment impensable. J'ai une petite question, allez, une petite question quiz pour toi, Pierre Armand, pour commencer. Je pense que tu dois l'avoir dans ta sacoche, mais est-ce que tu sais qui est le premier Français à avoir été drafté en NBA?
Je peux même te dire qu'il a eu la, il l'a su par courrier.
Très bien, je vois que tu as préparé tes petites fiches comme moi avant cette émission, donc parfait, parfait.
Ouais, on va parler de Jean-Claude Lefebvre, j'imagine.
Absolument.
Légende méconnue, à tel point méconnue, que cette histoire qu'un Français a été drafté en 1950, je crois, par les
60.
en 60, pardon, par les le Minneapolis Lakers. Cette histoire est sortie, a été découverte par un journaliste français qui s'appelle Pascal Legendre en 1988. En feuilletant par hasard les médias guides de début d'année des Lakers, il s'est rendu compte qu'il y avait un certain Claude Lefebvre qui avait été drafté, je crois, au 9e tour à l'époque. Alors, il y avait 8 équipes, je crois, dans la NBA en 1960. Donc, il y avait plein de tours de draft. Et ce Jean-Claude Lefebvre avait été drafté, ne s'est jamais rendu sur place. Mais l'histoire, elle est incroyable. Si tu veux, si tu me laisses la primeur, je peux t'en
Avec
parler deux
plaisir.
secondes.
Ben oui, avec grand plaisir.
C'est un joueur qui est né en 1937, fils d'agriculteur, et qui avait une particularité pour lui. C'était pas un talent pour la NBA, c'était pas pour le basket, c'était pas un manieur de ballon, quoi que ce soit. Il avait une chose pour lui, c'est qu'il faisait 2,18 m, et que 2,18 m à l'époque, c'était ultra rare. Quand on parle de George Mikan, une des grandes superstars du début de la NBA, George Mikan, il était à 2,08 m. Alors que quand on le voit sur les images, on a l'impression qu'il fait 2,30 m, tellement il est grand par rapport aux autres. Donc, joueur vite mis en équipe nationale, il fait un carton aux Pays-Bas, je crois qu'il met presque 50 points, ou 45 points, je crois. Et il y avait à ce moment-là ça paraît fou à la fin des années 40, au début des années 50, comme ça, de savoir qu'il y avait des recruteurs qui voyageaient dans le monde entier malgré tout, et un type recruteur américain qui le fait donc venir à Spokane, à Gonzaga. Dans une université bien connue des Français, puisque d'autres joueurs dont on parlera tout à l'heure y sont passés. Et alors, il y a des anecdotes folles, c'est-à-dire que c'est le cas de le dire, il trouve chaussures à sa taille aux États-Unis, dans le sens où il jouait avec des chaussures coupées au bout, avec les orteils qui dépassaient. Je te laisse imaginer le visuel, ça devait être merveilleux et ça devait sentir très très bon. Donc, il trouve chaussures à son pied, il joue à Gonzaga. Il a du mal au départ, et puis il a quand même droit à un portrait de 4 pages dans Sports Illustrated à l'époque, un portrait dans le magazine très sérieux Life, surtout sur le fait que c'est une aberration chromosomique et que c'est un phénomène de foire, hein, tout simplement. Mais il tente cette aventure, il est discret au départ, et puis un duel avec Elgin Baylor qui arrive, et là il commence à jouer fort, il monte à 20, pratiquement 25 points sur les 11 derniers matchs de la saison, une pointe à 50, une époque où il marquait 75 points par match, je te laisse voir le phénomène que
C'est
ça
clair.
pouvait faire. Et puis, c'est un type, par contre, qui a le mal du pays, qui est pas bien. Lui, il veut un esprit d'équipe, il se rend compte que c'est pas le cas aux États-Unis, tout le monde est très individualiste. Donc, sa seconde saison, elle est plus difficile. Il veut participer aux JO en 1960, il prend l'avion, mais à son arrivée, il chope une vilaine tuberculose, donc pas de jeu. Il prendra beaucoup de temps, il est alité pendant 3 mois. Il apprend par courrier que les Lakers donc l'ont drafté au 9e tour, mais il s'y rendra jamais. Il a pris sa retraite à 26 ans. Il est rentré lui aussi dans le monde agricole. Voilà une histoire folle. Jean-Claude Lefebvre, le tout premier Français drafté en NBA.
Ouais, histoire vraiment, vraiment dingue. C'est vrai que si vous voulez en savoir un petit peu plus encore, il y a l'article de Pascal Legendre, l'ancien rédacteur en chef de Maxi Basket, est disponible sur le site de la Fédération Française de Basketball, sur le site de la FFBB. Mais c'est vrai que cette anecdote, elle est folle de voir à quel point finalement le basket était un sport tellement qui nous semblait tellement étranger que ça a même pas fait, enfin, ça a pas fait parler du tout en France à l'époque. Il a fallu du temps avant que cette histoire ne ressorte. Là encore, tu vois, on avait entendu parler de ça, mais c'est quand même quelque chose de. Son nom n'est quasiment nulle part. Enfin, c'est vraiment, c'est un pionnier des pionniers dont l'histoire est totalement inconnue quasiment, quoi.
Ah oui, c'est fou. Et puis, il y a très peu d'images de lui, des images de lui avec le maillot de Gonzaga en plus. Et on voit que c'est un géant, vraiment, parmi les hommes, quoi. Ici, tout le monde, je crois que les meneurs à l'époque, à Gonzaga, je crois que son camarade de chambre, son roommate, faisait 1m67, c'était le meneur. Donc, c'était lui qui jouait son rôle d'agent pour gérer les demandes d'autographe, d'interview. Enfin, voilà, cette histoire, elle est vraiment folle. Et puis, ce type qui a le mal du pays, qui finalement sera agriculteur. Enfin, voilà, c'est vraiment la France profonde comme on l'est.
Carrément, carrément. Bon, alors, donc ça, c'est effectivement le premier Français qui a été drafté en NBA. Bien entendu, on va parler de Tony Parker tout à l'heure, c'est bien sûr indispensable. Malgré tout, moi, je te propose, Pierre-Armand, qu'on commence en parlant de Tariq Abdul-Wahd, qui reste quand même le premier Français à avoir vraiment fait carrière, finalement, avoir fait carrière en NBA, drafté en 97. L'ancien, donc, Olivier Saint-Jean, qui s'appelle depuis donc Tariq Abdul-Wahd, qui a été quand même, qui a ouvert les portes quand même pour les Français qui ont suivi. Pour tout un tas de raisons qu'on va pouvoir peut-être éventuellement évoquer, son nom aussi a un petit peu tendance à disparaître, je trouve, pas de l'histoire, mais du moins des tablettes. Quand on parle de pionnier, on pense tout de suite à Tony Parker, c'est le joueur et le nom qui est tout de suite mis en avant. Mais le premier vraiment à avoir quand même ouvert les portes en grand, ça reste Tariq.
Ah oui, le Neil Armstrong du basket français. C'est le premier qui a posé le pied sur un parquet NBA en novembre 97. Alors, je m'en rappelle très bien. Moi, je me rappelle où j'étais parce que je m'étais levé la nuit pour voir ça. Merde, c'était quand même quelque chose. Alors, il joue 10 minutes en fin de match, mais il met un panier. Je me rappelle du panier. Il met un turnaround sur l'aile à gauche. Le ballon roule dans le cercle. Enfin, ça, c'était phénoménal. J'étais comme un dingue de voir un Français en NBA. J'avais l'impression que c'était moi, quoi. C'était notre aventure à tous d'y être arrivé. Puis c'est un type qui avait pas un cursus facile, enfin classique en tout cas, mais pas un cursus facile. Il regarde vers les USA parce que son père biologique était un ancien joueur de Limoges, je crois. Il part jouer. Alors il fait pas mal de camps là-bas et puis il tape dans l'œil de Michigan quand il arrive là-bas. Il joue pas. Enfin c'est la merde. C'est ça l'ambiance à Michigan. C'est suite à tous les scandales comme quoi les joueurs avaient été payés. Donc c'est pas là qu'il va s'épanouir. Il rentre dans ce fameux portail dont on parle tant, ce portail de transfert dont on parle tant en ce moment. Et il va à San Diego State où il performe. Il est bien et puis on se rend compte surtout. C'est un master physique. Il dort jamais, il fait de la muscu tout le temps, il travaille la nuit, il fait la plonge dans les restaurants. Il est déterminé sur son objectif, un peu trop même, lui-même le dira. Il est arrivé à 22 ans, il était déjà cramé, il avait les genoux en compote, il avait un petit peu trop tiré. Et puis après, comportement peut-être difficile, un type qui se met de côté, il se convertit, il change de nom. Alors quand il arrive à Sacramento, il a déjà son nom. Il se sent bien à Orlando quand il est transféré de Sacramento. Et je pense que tu sais qui est son mentor à Orlando.
Glenn Rivers, bien sûr.
Le docteur.
Le docteur.
Il est allé voir le docteur, il n'a pas eu peur. Mais il a été ballotté, voilà, à Denver, Dallas. Et puis après, il a pâti de ce fameux. Ce fameux contrat garanti hein, qui a fait que Dallas l'a payé encore des années après. Et Mark Cuban, ça lui a mis les boules. Il a dit un peu du mal de lui. Voilà. Après, il a tenté un retour en Europe. Il reste un peu dans l'imaginaire collectif, je trouve, celui, un peu le Anelka, si tu veux, du basket. Celui qui fout la merde. Voilà, parce qu'en équipe de France, il y a eu des affaires, parce qu'il était toujours un petit peu en retrait. Tu vois, j'ai hâte d'entendre ton avis là-dessus, mais il a eu un traitement peut-être mérité parfois, mais quand même un peu trop accentué, je trouve.
Ouais, je
sur
pense que
l'ensemble.
c'est très juste ce que tu dis, dans le sens où il y a toujours eu. De toute façon, très tôt dans la carrière de Tariq, il y a eu quand même une fracture entre la presse et lui. C'est aussi une époque où le basket et le visage du basket français étaient en train de changer. Vraiment, il y a eu cette génération avec Moustapha Sonko, Makan Dioumassi, Tariq Abdulwahad, Alain Diguebeu, tous ces joueurs qui sont arrivés, qui ont commencé à faire du bruit, que ce soit. Donc Tariq est passé par Évreux aussi, en équipe de France, dans les clubs pro, l'équipe. Je fais un petit peu un parallèle, mais il y avait un petit peu un côté, tu sais, avec la génération hip-hop, la génération peut-être les
Ah,
gens,
c'est ça.
enfin banlieue, qui arrivaient dans ce sport qui était plutôt un sport, alors bien sûr un sport urbain, mais dont l'image au niveau restait quand même de club de province. Je pense que ça a pas été simple en fait, le traitement, ou du moins il y a des gens qui étaient un petit peu sur la défensive par rapport à cette montée en puissance d'un nouveau type de basketteur. Le fait, tu en as parlé, le fait que Tariq se convertisse, change de nom, ça non plus, hein, faut se rappeler, on parle aujourd'hui, on est en 2024, on parle encore d'islamophobie, faut remettre dans le contexte de la fin des années 90, et multiplier, je pense, par 10 ce genre de choses, ou du moins de la perception que les gens pouvaient en avoir. Donc Tariq a toujours été pointé du doigt comme étant quelqu'un de sulfureux. À tort ou à raison, c'est toujours compliqué de mettre, voilà, de mettre le doigt sur les choses précisément. Moi, je t'avoue, j'ai eu l'occasion de faire une interview avec lui, il y a quoi, il y a une dizaine d'années, je pense. Ça reste l'une des interviews les plus intéressantes que j'ai pu mener, parce que c'est vraiment un personnage qui est charismatique, qui est extrêmement intelligent, et qui a une très forte personnalité. Et ça aussi, je pense que ça a pu déranger d'une certaine manière dans le basket français de l'époque. À l'époque, Tariq avait parlé même de racisme dans le basket français. Tout le monde avait un petit peu, comment dire, monté au créneau en disant que c'était impossible de concevoir que dans un sport comme le basket, il puisse y avoir du racisme. Je pense que c'est absurde de se voiler la face au point de refuser de reconnaître que malheureusement le racisme est partout. C'est pas pour dire que les propos de je sais pas si les propos de Tariq étaient, comment dire, justes ou justifiés, mais ce qui est sûr, c'est que il n'était pas forcément à côté de la plaque, dans le sens où malheureusement, et là encore une fois, on le voit peut-être de manière encore plus visible aujourd'hui, le racisme rampant et partout. Donc c'est vraiment un athlète à part, effectivement handicapé par des blessures, une carrière qui a pris fin un petit peu tôt, et qui a pris fin, voilà, dans des circonstances un peu particulières. Moi, je repense forcément à l'Euro 2003. On a fait un,
Bien
il y a un
sûr.
papier, un long papier dans notre MOOC spécial 2003 sur cette équipe de France, qui reste l'équipe la plus impressionnante que j'ai pu voir sur le terrain, avec Tony Parker, comment dire, Jérôme Moïseau, Tariq Abdulwahad, qui faisait son retour justement en équipe de France. Une équipe avec un jeune Boris Diaw. Il y avait Florent Pietrus, une dimension athlétique jamais vue en Europe. Une machine à broyer, vraiment incroyable, une défense de fer. Alors, offensivement, c'était un petit peu plus. Il y avait des limites. Sur le tir, il y avait des limites. Mais par contre, une équipe de France incroyable. Et malheureusement, voilà, cette campagne qui s'est terminée un petit peu en eau de boudin, une demi-finale qui se joue à rien du tout, un arbitre qui gêne Tony Parker, une balle perdue, la Lituanie qui gagne. Et derrière, une équipe qui s'est totalement désolidarisée avant le match qui était pourtant hyper important pour la troisième place, puisqu'elle était qualificative pour les Jeux Olympiques de 2004. L'équipe de France, le groupe a explosé en fait après cette demi-finale. Et c'est vrai qu'il y avait une fracture en fait dans le groupe, et voilà, je pense que c'est pas se tromper que dire qu'il y avait d'un côté Tony Parker, qui avait été poussé à fond par la Fédération Française de Basketball, qui venait d'être champion NBA, donc qui était une machine à fric d'une certaine manière pour la fédération, pour les licenciés, etc., qui avait été propulsé capitaine alors qu'il était bien trop jeune, je pense, pour avoir ce statut en équipe de France, et de l'autre côté, pas une vieille garde, mais des joueurs qui avaient le sentiment, je pense, d'avoir fait le boulot qui avait permis à un joueur comme Tony Parker de pouvoir émerger d'une certaine manière, dont Tariq. Et donc là encore une fois, c'est rapidement vers Tariq en fait que les doigts ont été pointés, même jusqu'au fait que certains remettent en cause la blessure au genou qu'il avait handicapé sur la fin du tournoi. Bref, ça reste un personnage vraiment qui reste sulfureux entre guillemets. Dans le sens où il y a toujours eu beaucoup de bruit autour de ses performances, de ses prises de position, ou de ce qu'il pouvait faire sur un terrain, mais ça reste pour moi vraiment le pionnier en fait, celui qui a vraiment ouvert les portes vers la NBA, un athlète et un joueur qui était sans doute un petit peu, alors en avance, je sais pas, mais En fait, je trouve ça dommage finalement qu'il soit à ce point-là passé, tu vois, qu'on balaye un petit peu son parcours et son importance d'un coup de balai. Voilà, ça reste vraiment l'un des pionniers et le joueur qui a vraiment ouvert la porte pour toutes les générations qui ont suivi.
Oui, alors c'est vrai qu'on aimait bien à l'époque, rappelle-toi, mettre cette étiquette d'enfant terrible. Ça, c'est très français.
Oui, c'est
L'enfant
vrai.
terrible du basket. Et en foot, on a eu droit à Cantona, à Anelka. Mais le problème, c'est que cet enfant terrible, au lieu de dire c'est un caractère particulier, et c'est souvent les enfants terribles qui sont les personnages les plus intéressants, dans la tête du public français, c'est un petit con. Voilà, c'est un petit con, et nous, on n'aime pas les petits cons, arrogants, etc. Et on a oublié le défenseur élite qu'était Tariq Abdul-Wahad quand il était à Sacramento. C'était le chien de garde de toutes les superstars. C'est lui qui se frappait toutes les superstars de la ligue. À une époque où l'équipe de Sacramento était en train de se construire comme il fallait, avec Chris Weber, avec tout le monde. Hein. C'était lui qui se coltinait les plus gros. Moi, je l'avais vu jouer en équipe de France, je crois que c'était à l'Euro 99, je crois.
En France, ouais.
Ouais. Quel monstre athlétique! Enfin, et encore à l'époque, il jouait, tu sais, avec ses shorts très très amples, mais on voyait une musculature qu'on avait rarement vue. Hein. Et c'était quand même une star. On voyait un type qui voilà, qui jouait en NBA. C'était juste ce mot-là. Aujourd'hui, bon, bah, on voit des gars, on voit tous les joueurs de l'équipe de France, tous jouer en NBA, mais ça paraît presque même une normalité. Mais quand on voyait un type qui joue en NBA, oh, incroyable, incroyable. Enfin, pour moi, ça reste une légende quand même. Et c'est un type, voilà, tu vois, on trouve, par exemple, trouver un maillot Abdul-Wahad, c'est impossible.
Ouais.
Impossible, c'est curieux. Moi, ça reste un mystère. Alors oui, en effet, il a pâti de mauvaises relations avec la presse, mais c'est pas pour ça qu'il faut écraser l'héritage de quelqu'un à ce point-là, en tout cas.
Ouais, non, c'est clair. Et puis, je pense que ça va faire une transition peut-être avec Tony Parker. Il y avait ce côté-là aussi où, je pense qu'en France, alors c'était peut-être vrai dans d'autres championnats, je ne m'en rends pas compte, mais on était encore sur ce côté-là où il fallait. Les jeunes devaient attendre leur tour, en fait. Et c'est vrai que Tariq et puis dans la foulée Tony et d'autres, ils étaient pas dans cette, ils ont pas été élevés dans ce moule-là. Ils sont prêts, ils voulaient être responsabilisés, ils voulaient être sur le devant de la scène. Et quelque part, je pense que ben il y a eu aussi ça un petit peu de le basket français qui disait mais pour qui il se prend celui-là, vouloir partir faire son cursus aux États-Unis, partir en NBA, revendiquer une place que ce soit en équipe de France ou autre. Il y avait ce côté-là de les jeunes doivent attendre leur place, quelque chose qui a bien changé maintenant, hein, parce que maintenant on voit quand même, enfin, et c'est une bonne chose. Je pense qu'il y a un côté où maintenant, bah, si tu es performant, tu es sur le terrain. Je veux dire, Luka Doncic, quand il était au Real Madrid, il n'était pas là. Les vétérans qui étaient devant lui, ils disaient pas eh, petit, reste derrière nous, quoi. Non, il était titulaire. Tout le
Bien
monde savait
sûr.
que c'était probablement le meilleur joueur de l'équipe. Il était responsabilisé à 18 ans. C'est même chose pour Ricky Rubio un petit peu avant avec Badalone puis le Barça. Donc, mais à l'époque, c'est vrai qu'à l'époque de Tariq, c'était encore. Ça se faisait pas, en fait. C'était. Voilà.
Et puis surtout, c'était une époque où je pense que les joueurs comme ça, français, n'avaient pas peut-être anticipé le côté business. Que pouvait être une ligue comme la NBA, dans le sens où oui, c'est des joueurs, on va parler d'autres, qui à chaque fois vivaient ultra mal le fait d'être transféré, par exemple. Alors que bon, c'est le jeu. Quand il part à Orlando, il s'attache à Orlando. Après, il part à Denver dans la foulée. Bon, c'est des types qui n'ont pas supporté ça, les voyages. Et c'est surtout, c'est des types qui découvraient une mentalité qui était à part. On va juste avant de Tony Parker, j'aimerais faire, c'est un peu les montagnes russes pour parler d'un autre joueur qui, où beaucoup de gens ont cru en lui, sauf lui, c'est Jérôme Moïseau, qui était lui aussi un monstre athlétique à l'époque. Vince Carter, au Nets, avait dit que c'était un diamant brut, un joueur à 100 millions de dollars pour Jamal Mashburn, son coéquipier à New Orleans, mais un type qui avait le syndrome de l'imposteur pour de vrai, à tel point que son sélectionneur, Alain Weiss, à l'époque, avait dit que ça devenait de la mutilation. C'était pas possible d'être comme ça. Il a joué avec le zéro à UCLA. Est-ce que tu sais ce qu'il a dit Tu te rappelles ce qu'il avait dit à la presse? Il avait dit: je prends le zéro parce que je suis un zéro. Je joue comme un zéro. les fans avaient regardé en disant, mais il plaisante lui. Et aux États-Unis, ça ne peut pas marcher. C'est horrible de ne pas avoir confiance en soi. Mais on parle de deux joueurs qui étaient pionniers comme ça, mais qui ont fait un cursus quand même universitaire, un cursus US, UCLA d'un côté, même s'ils viennent de France, Michigan, San Diego State de l'autre. Et on en arrive à un joueur qui lui a dit, moi les gars, j'en ai rien à foutre. J'irai en NBA. Je suis petit, mais j'en ai rien à foutre. Et on arrive à Tony Parker qui lui amène non seulement une confiance, mais une mentalité qui n'avait jamais été vue à l'époque et qui aujourd'hui encore, ce côté mentalité de dire « moi je suis le meilleur » qui lui colle à la peau encore parce qu'il est clivant pour beaucoup de gens, Tony Parker, parce que beaucoup de gens disent « c'est pas français à la limite d'avoir autant confiance en soi ».
Oui, c'est clair. Bah, Tony, il y a toujours eu. Alors, bien sûr, au début, c'était quand même incroyable. Il y a eu une histoire d'amour, quand même, du basket français avec Tony Parker sur les débuts. Et après, il y a eu aussi un phénomène, je pense, c'est que ceux qui suivaient déjà la NBA de très. Tu sais, il y a un peu ce côté de quand t'es fan d'un groupe que personne connaît. T'es fan, et puis tout à coup, ça commence à passer à la radio. Tout le monde se jette dessus. Tu te sens un petit peu, tu sais, comme si on t'avait volé ton petit truc à toi. J'ai l'impression que pour Tony Parker, il y a eu un petit peu ça où finalement, quand le grand public s'est mis à se passionner pour Tony Parker, les fans de basket qui suivaient déjà la NBA, qui suivaient son parcours, etc., sont sentis un petit peu dépossédés et j'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu de ressentiment quelque part de voir toute la hype qu'il y avait autour de Tony quand certains pensaient que c'était parfois un peu trop à certains moments, même si voilà, le parcours, la carrière, elle est extraordinaire. C'est juste hors norme, en fait. On n'est même pas obligé de rappeler les spécificités de sa carrière. Tout le monde les connaît, quoi. Mais la carrière, elle est folle. Et je trouve que même jusqu'au bout, finalement, même aujourd'hui encore, alors, c'est pas du tout. Il n'y a pas du tout de fracture comme entre Tariq et les médias, comme on en parlait tout à l'heure. Mais j'ai l'impression qu'il y a un décalage, finalement, toujours entre quand même la. Je ne sais pas comment dire, entre le joueur, l'athlète hors norme qu'est Tony Parker et le communicant, en fait. Je le trouve maladroit, en fait, dans sa communication, parfois. Et tu as l'impression qu'il se sent mésaimé, ou du moins qu'on n'apprécie pas sa carrière à sa juste valeur, que j'ai l'impression que c'est le cas globalement, et que c'est le cas en France notamment. Mais parfois, tu as le sentiment qu'il a besoin de rappeler son cursus, de se comparer à d'autres grands joueurs, etc. Je trouve ça... Bon, là, je sais pas si c'est le propos même du podcast d'aujourd'hui, mais je trouve ça un petit peu dommage, finalement. Je trouve un peu, ouais, parfois maladroit dans sa communication par rapport à tout ça. Mais oui, juste, et puis juste, je reviens un mot sur Jérôme Moïseau dont tu parlais, l'anecdote là sur son numéro 0. Effectivement, lui, il disait ça pour sur le ton de la boutade pour plaisanter, mais aux États-Unis, c'est pas du tout passé. T'avais raison de le noter. Les gens, ils comprennent pas que tu puisses dire une chose pareille. Et c'était un talent énorme. Tu parlais de UCLA, mais c'était grosse équipe. C'était Baron Davis, Jason Capono. C'était une énorme équipe de UCLA. Il avait un talent fou, athlétique, et puis une main gauche en or. Pour moi, ça reste l'un des plus grands mystères, honnêtement, du basket français, de savoir pourquoi Jérôme Moïseau a pas pu faire une belle carrière, en tout cas en NBA. C'est incompréhensible. Il a fini, bah justement, on parlait de Ricky Rubio, avec Ricky Rubio à Badalone, faire des belles choses en Europe. Mais par contre, je t'avoue que ouais, ça reste un immense mystère, Jérôme Moïseau.
En fait, je pense que la NBA est un immense mystère. En fait, c'est tellement verrouillé, tout est tellement verrouillé que je pense que en fait, on raisonne à l'envers depuis le début. On se rend pas compte du tout de ce que ça peut impliquer, de ce que ça. Je pense que c'est des types qui sont, on en parlera peut-être tout à l'heure si on évoque Joakim Noah, ou un mec comme Joakim Noah, on lui a souvent reproché une carrière trop courte en équipe de France. Mais c'est des gars qui n'ont pas grandi avec les équipes comme ça. C'est des types qui ont grandi sur des modèles où les rassemblements d'été, ça, c'est se confronter à l'Espagne, etc. Bon, c'est très bien, mais la NBA, ça doit être un monde tellement à part et tellement ça doit broyer des égos, broyer des gamins sur des coachs qui doivent être durs avec eux, j'imagine. Un jeune comme Tony Parker qui a supporté les outrances de Greg Popovich pendant toutes ces années, il y en a plein aujourd'hui en tout cas qui ne le feraient pas. Mais Tony Parker aujourd'hui, comme on le voit à la télévision faire... qui sera le prochain entrepreneur et tout. Le truc, c'est que lui, en 2001, c'était déjà un entrepreneur. le Tony Parker d'aujourd'hui, c'est déjà celui de 2001. C'est-à-dire, le gars, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est construire sa maison. Le reste, il met à droite, il met à gauche, il entreprend, il prend un club à San Antonio, il y met ses frères dedans, il ouvre des affaires à droite, à gauche, etc. Il s'achète un truc, un club, un domaine de ski. C'est des types, ils sont programmés à ça. Et je pense que Tony Parker, en France, son tipping point, c'est 2013 avec le titre de champion d'Europe, parce que c'était, il portait sur ses épaules les échecs en équipe de France. Et quand on ne suit pas la NBA et qu'il porte forcément le basket, ben on voit qu'une chose, c'est l'Euro, et on voit les Jeux Olympiques et que ça ne marchait pas forcément. Bon, ben ça, je pense qu'il l'a tiré avec lui. Mais c'est difficile de ne pas, en tout cas, respecter le bonhomme sur ça. C'était une époque en plus où 2001, 2002, c'était la grande époque de l'équipe de France de football, avec des grandes figures, avec Zidane, etc. Donc c'est vrai qu'on se reportait sur lui tout de suite. Tous les espoirs du sport français étaient sur lui. Alors après, des râleurs ont pu dire « Oui, mais non, mais c'est parce que Duncan, c'est parce que… » Ouais, mais bon, s'il n'y a pas Tony Parker, il faut dire ce qu'il est. S'il n'y a pas Tony Parker, il n'y a pas de dynastie des Spurs. Et sur le MOOC qui est derrière toi, j'imagine que ce n'est pas pour rien si vous avez choisi de le mettre sur la couverture.
Ouais, non, bien sûr. Et puis, ce qui est indiscutable, c'est que c'était une locomotive pour le basket français et pour l'équipe de France. Tu parlais de Joakim Noah. Effectivement, c'est un peu particulier. Il a grandi aux États-Unis. Il était très fort sur la fin, donc il n'avait pas été appelé en équipe de jeunes, équipe de France jeune, etc. Tony Parker, son amour du maillot, il est indiscutable. Il a été là tout le temps, dans toutes les galères, même les missions. On en parle dans le MOOC Loser, là, la fameuse mission 2008-2009, là où il faut aller essayer de chercher une qualif alors que personne veut aller en équipe de France, Tony finit quand même par revenir pour essayer de qualifier l'équipe de France. Il était tous les combats là-dessus. Il est indiscutable. Voilà, son impact est indiscutable. Ça a vraiment été une locomotive du basket français et de l'équipe de France. Ce que je notais tout à l'heure là sur sa maladresse, je trouve, dans la communication. Bon, ça c'est mon avis personnel. C'est au bout du compte, c'est même pas grave en fait. Important sur l'héritage qu'il laisse est énorme. Et puis c'est lui, je pense aussi, tu en parlais tout à l'heure de la différence entre le rêve et l'objectif, qui a fait que pour les autres joueurs, les joueurs qui ont suivi, la NBA est devenue un objectif, tout simplement, un but à atteindre, et pas un rêve ou un fantasme, quelque chose d'inatteignable. C'est vraiment lui qui a permis cette bascule.
Oui, et puis les gars, on a quand même un type qui est Hall of Famer, Je pense qu'aujourd'hui, tout ça, c'est normalisé, la présence des Français en NBA. Mais moi, j'étais très ému l'année dernière de le voir avec la veste orange. Enfin, c'est quand même quelque chose. Toujours pareil, en France, on s'en rend compte plus tard.
Non, c'est ça. Mais ce qui est fou avec Tony, c'est que j'ai toujours le sentiment que même si ça a été le meilleur joueur, bien sûr, à ce jour, le meilleur joueur français à ce jour, et le meilleur joueur de sa génération, c'était pas forcément le plus talentueux. Pour moi, le plus talentueux, de cette génération, c'est Boris Diaw, qui a fait longue, très belle carrière en NBA, grande carrière au total quand on regarde les résultats en équipe de France. Là aussi, un amour du maillot indiscutable. Une grande carrière, en fait, j'ai pas le terme. Mais ce qui est fou avec un joueur comme Boris, un joueur aussi talentueux, c'est qu'au bout du compte, je suis quand même resté un petit peu sur ma faim. Quand on se rappelle du joueur explosif qu'il a été à Pau sur ses premières saisons NBA, le talent, je continue de me dire que c'était lui vraiment le plus talentueux de cette génération, de cette magnifique génération du basket français. Je ne sais pas toi comment tu as vécu et tu as vu la carrière de Boris Diaw.
C'est ce qui se rapproche le plus de Monsieur Tout-le-Monde, en fait, Boris Diaw. Et je pense que c'est ça qui est encore plus frustrant. C'est un type qui a eu 1000 carrières NBA, il a joué à tous les postes, il a fait des franchises pétées comme des franchises. Mais c'est un type qui symbolise à lui tout seul l'importance de l'environnement dans un club. On sent, on voit comme il a performé à Phoenix quand il y a MIP en 2006. Où ça part dans tous les sens, tout le monde touche la balle, voilà, c'est des gars, ils veulent pas la balle, ils veulent la toucher à un moment donné et faire en sorte que tout le monde la touche. Atlanta, il s'ennuie. À Charlotte, on n'en parle même pas. Il a un maillot tellement horrible qu'il peut faire que ça. Il subit en 2007 cette mascarade des Suns qui sont suspendus, ce truc qui fausse, on en a parlé dans les what if, dans les complots, dans tout ce que tu veux. Mais on est quand même en face d'un gars qui, tellement il s'emmerde à Charlotte, il rachète la fin de son contrat. Mais qui fait ça, tu vois, même aujourd'hui? Le type dit, moi je suis tellement pas bien, mais je rachète mon contrat, je me casse, je m'en fous. Et en 2013, il trouve un déclic, il retrouve son pote. Et pour moi, je ne tu m'enlèveras pas de l'idée que c'est lui le MVP des finales 2014. Voilà. Tu parles de most valuable player dans ce qu'il apporte à l'équipe. Alors, il est moins flashy, il défend moins fort sur LeBron qui s'énervait en disant il est tellement lent qu'il ne mord pas aux feintes. Du coup, nous, on fait feinte de départ à droite et toujours à gauche. Du coup, on s'enferme sur lui à gauche. Mec, il n'est pas lent, il sait très bien, t'inquiète pas. Enfin, tu sais, quand il a ce sourire, Boris, ce petit sourire dans son coin, il sait très bien que tu lui feras jamais quoi que ce soit. Voilà. Et cette intelligence de jeu, cette intelligence tout court, je pense que c'était l'homme le plus intéressant de la NBA selon tous nos confrères américains, et c'est pas pour rien s'il est si attaché encore à Pop aujourd'hui. Voilà, quel personnage. Et en effet, tu vois, quand tu parlais des cinq personnes avec qui t'aimerais passer une soirée pour discuter. Je pense que lui, ça doit être quand même quelque chose.
Ouais, c'est clair. Et puis voilà, il a géré vraiment sa vie comme il en avait l'envie.
C'est ça.
Donc ça, c'est
L'homme
hautement
libre
respectable.
voilà, l'homme
Mais
libre
oui,
par excellence.
exactement. Exactement. Mais en même temps, tu vois, quand il y a une vidéo qui a fait le tour un petit peu en début d'année, là, dans un podcast, où il racontait que, je sais pas, genre sur les 7 dernières saisons de sa carrière, il n'avait pas pris un tir main gauche. Tu vois, c'est ce genre de choses où tu dis, mais Boris, là, avec un peu plus de, tu vois, un peu plus de travail, ou travail, je sais pas, mais un peu plus là. Tu sais, je me suis toujours dit, si t'avais mis 20% de la détermination de Tony Parker à Boris Diaw, t'aurais eu un mec qui serait, c'est même pas Hall of Famer, c'était potentiel all-time, joueur all-time en fait, tu vois.
C'est ça. Ah non, mais c'est sûr. Et puis, c'est haut et c'est bas dans le sens, le type arrive en surpoids, et puis après, quand on l'a vu, un athlète complètement dingue, une détente folle. Voilà. Je crois qu'il y a un mot, c'est unique. Je pense
Oui.
que Boris Diaw, il est unique. Voilà, et vous vous y êtes pas trompé finalement quand vous aviez fait votre t-shirt que je portais l'autre jour sur les Spurs à l'époque. Vous aviez mis Boris dedans dans le 5.
Bah oui. Bah oui, non, mais c'est vrai qu'il avait
Ça
été
paraissait
incroyable. Et puis
évident.
il était fait. En fait, il était fait pour cette équipe et quelque part, bah c'est. Enfin, tu en avais parlé, je crois. Il y a une interview où Greg Popovich explique en fait l'importance que Boris Diaw a eu dans cette équipe, dans faire tourner la balle encore mieux. Voilà, toutes ses qualités de joueur. Moi, il y a un autre joueur que j'ai adoré forcément, qui est passé alors brièvement par les Spurs. Moi, ça reste mon joueur français préféré, Nando De Colo. Voilà. Pour le coup, c'est moi ce que j'ai aimé dans le cas de Nando, c'est que même s'il n'a pas fait de longue carrière NBA, il fait partie de ces joueurs européens qui sont venus en NBA, qui ont vu qu'ils pouvaient y jouer. Il aurait pu rester, hein, il est pas reparti en Europe parce qu'il n'avait pas de proposition de contrat. Toronto lui avait fait une proposition de contrat, il aurait pu rester en NBA, mais qui s'est dit, mais ok, la NBA, je peux y jouer, j'ai le niveau pour, mais moi je vais repartir en Europe dans des championnats qui sont quasiment tout aussi relevés. Dans un système où je vais pouvoir choisir les équipes dans lesquelles je vais jouer, et je vais jouer des titres tous les ans. Il est parti, il était au CSKA Moscou, il jouait championnat de Russie, l'Euroleague, la coupe, etc. Il a rempli son armoire de trophées à ras-bord avec, voilà, il était même MVP d'Euroleague. Et finalement, moi je comprends ce choix-là en fait, parce que tu te dis, tu repars en Europe, bah t'es pas, enfin, je veux dire, t'es pas à la merci d'être tradé du jour au lendemain, de passer d'une équipe qui joue le titre à une équipe qui est en fin de tableau et qui va juste chercher à tanker pendant 5 ans. Voilà, moi j'ai adoré Nando, franchement la carrière qu'il a faite en Europe, regardez son CV. Je pense que les gens se rendent pas compte en fait de la carrière incroyable qu'a réalisé Nando De Colo. J'ai bien aimé le voir au Spurs. J'aurais bien aimé que ça, voilà, qu'il arrive à une époque où il aurait pu être un peu plus responsabilisé. Mais en tout cas, je pense que il a vraiment fait le bon choix pour le coup de carrière en revenant en Europe et en étant sur le toit du monde, enfin sur le toit de l'Europe en tout cas toutes ces années.
Et puis, moi, ce qui m'étonne, c'est que l'exemple Nando De Colo de dire, bon, bah, je vais en NBA, comme tu dis, j'ai le niveau, je suis pas nul, j'y arrive. Et de dire, bah oui, mais j'y trouve pas mon compte, peut-être. En effet, encore une fois, le côté. Il y a un truc vraiment qui revient beaucoup quand on fait, quand on étudie un petit peu ce genre de thème et qu'on lit des interviews de ces joueurs français, c'est la différence de mentalité, pas qu'ils ont eux, c'est l'absence d'esprit d'équipe. Et ça, on sent que ça les pèse. L'individualisme forcené, c'est quelque chose qui est compliqué. Il y a des types qui arrivent à créer autour d'eux un esprit d'équipe alors que ce n'est pas le cas. Joachim Noah, le meilleur exemple de Joachim Noah, tu vois. Mais un type, on en parlera peut-être tout à l'heure, comme Antoine Rigaudot, le mec a halluciné en arrivant là-bas. Il s'est dit, il n'y a pas moyen. Bon, on l'a poussé dehors aussi. Mais c'est pas possible, il n'y a pas moyen, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas vivre là-bas dans ces choses-là. Je pense que le mec comme Nando De Colo, il a besoin bah, d'être avec l'équipe, le soir d'aller bouffer avec ses coéquipiers, d'être dans le bus avec ses coéquipiers, pas chacun de son côté, pas chacun arrive à la salle une demi-heure après, à montrer comment il est sapé, etc. Et je suis étonné que cette jurisprudence De Colo de la réussite post-NBA ne donne pas à réfléchir à certains gamins aujourd'hui qui sont encore jeunes. Je pense à ceux qui n'ont pas de club en ce moment et les JO approchent, à Kylian Hayes, je pense à Frank Ntilikina. Mais revenez, revenez en Europe. Alors, est-ce que c'est quoi? C'est la peur d'échouer? Regarde un mec comme Gershon qui pourtant, il avait moyen de faire de la NBA, hein, et qui est revenu en Europe et qui s'éclate encore en Europe. Bon, après, pour un Geoffrey Auvergne qui dit, moi, vous savez quoi, la NBA, c'est pour prendre de la thune. Et après, moi, mon rêve, c'est de jouer au Partizan Belgrade. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais bah, faut s'en inspirer de ces gens-là. S'en
Ouais,
inspirer.
d'autant que maintenant on sait qu'on peut faire les allers-retours. Quand tu vois Dante Exum, voilà, qui
Exactement.
était en NBA à perdre son temps un petit peu parce que problème de blessure, donc pas responsabilisé, qui est revenu jouer
Exactement.
en Europe, qui a été excellent et maintenant qui est l'un des joueurs hyper importants de Dallas aujourd'hui, on voit que ces allers-retours sont faisables, envisageables et que
Bien
t'as
sûr.
rien. Voilà, c'est plus comme avant où une fois que tu n'étais plus en NBA, les clubs avaient plus un œil sur toi. Maintenant, ils ont un œil sur tout, en fait, les clubs de ces niveaux-là. Regarde tout ce qui se passe, du moins
Bien
si tu es
sûr.
dans un gros championnat, il y a des
Évidemment.
équipes NBA qui vont suivre tes performances.
Mais évidemment, évidemment. Et pour continuer dans cette génération-là, dans ceux qui avaient confiance en eux, je pense que c'est le type qui a le plus confiance en lui de l'histoire du basket français, à part Tony Parker, c'est Evan Fournier. On se rappelle
J'étais
dans.
sur un autre joueur que je te dirai après, mais
On se
bien
rappelle
vu
dans
pour
C'est quoi,
Evan, bien vu
dans
pour
C'est
Evan.
quoi ton sport, à 13 ans, il défie Boris Diaw, il a pas peur de lui. Il rejoint Nanterre à 16 ans en Pro B, on lui dit mais ça va pas la tête. Il va à Poitiers en Pro A, parce qu'à l'époque c'était un peu encore comme ça. On lui dit ça va pas la tête. Tout le monde pense qu'il va trop vite, qu'il est trop frêle, qu'il est trop juste en défense. Il s'en fout. Chaque année, il chope des trophées de meilleurs jeunes, etc. Denver le draft, lui dit reste en Europe parce que t'es pas prêt. Sinon, tu joueras pas assez. Le mec, il dit moi, j'ai rien à foutre. Je veux les gars, je viens, je veux mon équipement, je veux mon maillot. Il y va. Il s'éclate à Orlando par la suite. Comme beaucoup de joueurs français, et il rêve de New York, il y arrive avec ce qui se passe. C'est un mystère pour moi ce qui s'est passé à New York. Il n'empêche qu'il a son nom marqué sur le palmarès de New York. Le numéro un des tirs à 3 points marqués sur une saison. Bravo à lui. Moi, il fait une carrière NBA. Bon, bah maintenant, il est à Détroit, le pauvre, mais il s'accroche et il sait ce qu'il vaut surtout. Il n'a pas perdu une once de confiance en lui. Ça, c'est ça. Evan Fournier, pour ça, il a. Plus le fait qu'il a, je pense, fait une des séquences de télé qui m'a le plus fait rire de l'histoire quand il est chez First Team et qu'il dit à Erwan, mais t'as joué toi? Et Erwan dit, il m'a pas respecté. Parce que je sais pas si tu te rappelles de ça. Erwan dit un truc et l'autre regarde, il fait mais t'as joué toi? Il dit oui, j'ai joué. Et puis il fait putain, il m'a pas respecté. Il m'a pas respecté! Et c'était très marrant. Et encore une fois, voilà un personnage passionnant. Passionnant
Ouais,
dans
c'est
ses
clair.
analyses qui sont
Franc
toujours justes.
parleur.
Le premier à dire j'ai joué comme une merde. J'étais nul. Premier à dire on est nul. Et le premier à dire voilà, j'ai bien joué, on est bien. Et puis cette. Là encore, un amour du basket français et un amour de taper les Américains, enfin une détermination à taper les Américains. Quand il joue contre Team USA, il est possédé, quoi.
Non mais c'est clair, en fait je rigolais parce qu'en fait quand t'as parlé de joueur français avec la plus grosse confiance en lui, j'ai cru que tu parlais de Mickaël, je croyais que t'allais parler de Mickaël Piétrus. qui est dans la même qui est dans la même catégorie. Voilà, qui était aussi même génération que Tony Parker, que Boris Diaw. Moi, en fait, quand je pense à Babak et à Michael Piétry, je me rappelle aussi quand ils étaient encore à Pau. Et cette équipe incroyable, moi, qui m'a fait énormément kiffer, où tu avais quatre jeunes hors du commun, Boris Diaw, Florent Piétrus, Michael Piétrus et l'Ukrainien Artur Drozdov, qui était un énorme potentiel aussi du basket européen à ce moment-là, et qui avait pris voilà, la Pro A, comme tu disais, d'assaut. Michael Pietrus qui a fait une belle carrière au bout du compte, hein, parce qu'il a quand même il fait partie des Warriors We Believe qu'ont tapé les Mavs en 2007. Il était en finaliste NBA avec Orlando quelques années plus tard avec Dwight Howard au sommet de ses pouvoirs. Personnage attachant aussi par la personnalité, les déclarations un peu fracassantes quand parfois voilà personne enfin c'est ils font partie de cette génération. C'est là vraiment que la NBA s'est ouverte complètement à la France et s'est dit, mais c'est quoi ce réservoir de joueurs ultra athlétiques qui sont
Ultra
calibrés pour
athlétique.
notre championnat? Et les portes se sont ouvertes grand grand derrière. Il y
Moi,
a
c'est cette histoire de
ouais, vas-y, vas-y.
dimension athlétique qui a vraiment tout changé. C'est le fait de se dire que les Français, ils jouent en l'air et ils jouent plus les deux pieds au sol, comme ça pouvait être le cas avant, quoi.
Ouais, c'est clair. Du coup, il y a deux joueurs que je voulais aborder. Je vais commencer par un qui jouait plutôt les pieds au sol, dont t'as prononcé le nom tout à l'heure, c'est Antoine Rigaudeau. Moi, ça a été quand même une grande douleur de voir Antoine Rigaudeau avec les Mavs,
Crime de
parce que.
lèse-majesté, c'était le roi à l'époque.
Ben ouais, mais c'était le contexte était catastrophique en fait. Dallas qu'il fait venir en milieu de saison, il est à peine sorti de l'avion qu'il doit jouer un match. Et je me rappelle ce match-là, je me rappelle l'avoir regardé.
Ouais,
Donc
moi
il joue
aussi.
avec Dallas. Il joue contre Houston, il se retrouve à défendre contre Steve Francis. Plus personne ne sait qui est Steve Francis, mais Steve Francis, il y a une fenêtre de 3-4 ans où c'était l'un des joueurs les plus intenables de toute
C'est
la
un
ligue.
écureuil, c'est un écureuil. Inattrapable. Qui
C'est
saute sur
ça.
un écureuil.
C'est exactement ça. Et donc, Antoine Rigaudeau, qui a tout un tas de qualités, mais qui n'a jamais été un stoppeur, se retrouve à défendre sur l'un des mecs les plus athlétiques à son poste. Ça n'avait pas de sens. Et cet enchaînement de matchs où Dallas a essayé de le faire jouer à contre-emploi, vraiment, a insisté alors que enfin, voilà, il a expliqué par la suite. Antoine Rigaudeau, c'est un joueur qui avait besoin d'énormément s'entraîner. Tu arrives en milieu de saison, il y a quasiment plus d'entraînement collectif en fait. Il y a des petites séances individuelles, tu revois deux trois trucs au shoot-around du jour même, mais ça n'a rien à voir avec la culture des entraînements à l'européenne. Donc c'était assez douloureux de voir Rigaudeau en NBA durant ce court passage, parce que les gens, voilà, je trouve que limite ça. On pouvait discréditer un petit peu l'immense joueur qu'il a été aux yeux du grand public qui regardait la NBA et qui disait, mais c'est qui cet Antoine Rigaudeau dont on nous parlait? Je crois que c'était un grand joueur, il n'est pas capable de jouer, de tenir sa place. Et ce qui était un peu paradoxal aussi, c'est qu'il s'est retrouvé pour le coup avec Tariq Abdul-Wahad, puisqu'ils étaient ensemble à Dallas. Je pense que voilà, c'est un mystère, un secret pour personne, que ces deux joueurs vraiment qui s'entendaient pas du tout, qui s'appréciaient pas le moins du monde. Donc je me demande, tu sais, parfois les mecs qui jouent pas, il y a des séances de 3 contre 3 pour qu'ils gardent la forme. À partir du moment où ils ont été mis de côté tous les deux, là, je me demande à quoi ressemblaient les séances de 3 contre 3 où il y avait Tariq d'un côté et Antoine Rigaudeau de l'autre. Ça devait être saignant, je pense.
Mais quel enfin, voilà l'exemple aussi de il y en a qui vont trop tôt, il y en a qui vont trop tard, voilà, c'est trop tard. Il avait été pisté, je crois, par Houston en 94, quand même, par Houston en 94, l'année où ils sont vraiment au top de leur forme. Et puis pourtant, c'était pas faute, c'était pas une défiance, parce que qui est-ce qui le coach à Dallas? C'est Don Nelson?
C'était Donaldson, ou oui,
Ouais.
c'était encore Donaldson, c'était
Ouais,
pas
donc c'est un
encore
type qui était très
Avery
ouvert
Johnson.
au basket européen
Oui.
et pas du tout fermé à ça. Et puis en plus, il y avait les déclarations de Mobley qui disait que c'était un déchet, qui était incapable de faire une passe de bois.
Ouais,
Je pense que c'est le plus
ouais.
gros échec, par rapport à ce qu'il avait démontré. Ouais.
Ouais,
Après,
c'est vrai, et puis.
en France, hein, parce qu'après, il y en a eu des échecs de superstars en NBA, les Teodosic, les types qui sont revenus, ils ont continué à étaler leur génie. Et puis, je pense alors, ouais, et puis voilà, Texas, faut y
Oui.
vivre aussi, hein.
Et comme tu disais, après, il est revenu en Europe, il a fait une très belle fin de carrière, notamment du côté de Valence en Espagne. Voilà, ça n'a pas entaché sa réputation ni le joueur qu'il
Non,
était en Europe. Ce qui était
heureusement.
dommage, c'était voilà, c'était pour la NBA, c'était l'occasion ratée. C'est vrai qu'en NBA, on se rend compte aussi de l'importance du contexte, en fait, et que c'est vraiment plus que sans doute dans d'autres ligues, le contexte qui fait beaucoup de choses. Moi, il y a un joueur, je pense, pour qui ça n'a pas fonctionné pour ça, c'est Michael Gelabal, qui est un joueur que j'ai adoré aussi, qui avait toutes les qualités, je pense, pour tenir sa place vraiment en NBA et qui s'est retrouvé coincé à Seattle dans un club avec un entraîneur qui essaie de garder sa place par tous les moyens et donc qui donnait pas du tout qui lui a pas donné sa chance tout
Et puis
simplement.
un old-timer qui arrive juste en même temps, surtout.
Yes, exactement ça, exactement ça. Et puis grosse blessure au genou, hein, il a failli être perdu pour le sport, hein, Michael Gelabal, avant finalement de revenir en France, en Europe, et de faire une très belle carrière, notamment avec l'équipe de France, où il a été. Voilà, c'était un plaisir, un bonheur de voir jouer Michael Gelabal avec l'équipe de France. Mais là, effectivement, je pense que si tu reprends. Tu reprends d'autres scénarios, tu mets Michael Gelabal dans d'autres situations. Je pense que défensivement, même dans son intelligence de jeu, son efficacité offensive, il avait tout pour faire une carrière à ce niveau-là. Voilà, la vie en a décidé autrement. Je ne sais pas s'il a des regrets par rapport à ça. Ça, j'en ai aucune idée, mais c'est vraiment un joueur, je pense, dans un autre contexte, qui aurait pu faire une carrière vraiment en NBA sans problème.
Oui, moi j'en suis persuadé parce qu'il y avait l'intelligence de jeu. C'est pour ça aussi que les Français, à un moment donné, étaient recherchés parce ils avaient une vraie formation quand même à l'européenne avec que ce soit les équipes de jeunes, avec les compétitions de jeunes, avec l'INSEP, etc. Et on les prenait pour leur QI basket aussi. Il hein. Faut pas, y a pas de, y a pas de, y a pas à chercher là-dessus. Et Michael Gelabal, ouais, super. Puis un bel athlète, et puis une belle mentalité, toujours calme. Moi, j'ai toujours adoré.
Moi, ce que j'ai adoré avec Michael Jabal, c'est que à part en NBA, c'est un mec qui a tout le temps eu les mêmes stats partout, en fait.
Partout.
Qu'il soit avec Cholet à 18 ans, qu'il soit avec le Real Madrid, qu'il soit en équipe de France, c'est un mec qui allait être entre 10 et 12 points à 60% ou 55% de réussite, quelque chose comme ça, une défense de
Ouais.
fer, du rebond, de la passe. J'adorais ce joueur.
Ouais, fiable, pas forcément flashy, mais voilà, fiable. C'est ça qu'on aimait. C'était pas de le voir avec le maillot de Minnesota en galère. Ça fait trop de la peine. Moi, un type qui est vraiment l'archétype du mec né trop tôt. On parlait de Jean-Claude Lefebvre tout à l'heure. On est obligé de parler du plus grand shooter de l'histoire du basket français, Hervé Dubuisson, bien sûr. Le blanc qui saute par-dessus les buildings, comme le présentait la presse US avant les JO de 1984. Cette même année, il rejoint son équipe du Stade français. Il fait un tournoi à Gravelines où il rencontre une équipe américaine qui est assemblée sous le parrainage des Nets de New Jersey et il les taffe. Il leur met 46 points sur la tronche. Enfin bon, incroyable. Du coup, il est invité au Summer Camp des Nets. Il signe un contrat de 65 000 dollars, ce qui est du jamais vu pour un joueur étranger non formé aux États-Unis. Je crois que c'est la première fois que ça arrivait d'ailleurs. Et puis il fait des JO en demi-teinte. Ils prennent une déculottée de presque 60 points contre la jeune Team USA avec Jordan, Ewing et consorts. Il découvre au Summer Camp une mentalité dont il connaît pas, pareil, avec des tueurs. Il le dit lui-même, c'était des tueurs. Chacun rentrait chez soi, il n'y avait pas du tout de camaraderie, il n'y avait rien de tout ça, donc c'était lui, il comprenait pas tout ça. Il se bat, mais sans attendre la réponse des Nets, il rentre en France. Voilà, il voulait pas en partir. C'est une icône absolue du basket français. Et puis plus tard, un certain Dražen Petrović arrivera un petit peu avec le même profil finalement. Et c'est peut-être que c'est lui qui aura ouvert la voie à la réussite de Dražen Petrović. Mais en tout cas, ça avait de la gueule les images d'Hervé Dubuisson avec son maillot, le vieux maillot des Nets là, avec son ballon NBA sur les quelques photos de presse qui existaient. Un peu pareil, concours de circonstances. Il fait des workouts malades. Il est avec après des indigestions. Voilà, c'est tout un contexte. Tu arrives dans un pays qui est pas le tien. Tu manges quelque chose que t'as pas l'habitude de manger. Donc, ça doit pas être facile quand même. Moi, j'ai une admiration profonde pour cette époque-là, en tout cas, de gamin qui arrivait, de joueur chevronné qui arrivait dans un monde. Enfin, Vlade Divac le raconte quand il arrive à Los Angeles de Yougoslavie, enfin le mec, où je suis quoi.
C'est clair, mais imagine la hype. Imagine, tu transposes Hervé Dubuisson aujourd'hui, la
Bah.
hype qu'il y aurait autour de ce joueur-là sur toutes les mock drafts. D'ailleurs, je vous invite, il y a un documentaire qui est vraiment chouette de Nicolas Venancio de Gasface qui s'appelle le Dub, le blanc qui sautait au-dessus des buildings, pour reprendre la phrase dont tu parlais tout à l'heure, là, qui raconte un petit peu voilà, ce rendez-vous raté en 84 avec entre Hervé Dubuisson et les Nets, et qui est vraiment un super documentaire. Je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez retrouver tout ça. Mais je parle de hype, on en avait déjà parlé rapidement, Pierre Armand, mais un joueur comme Mustapha Sonko, pareil, tu mets Mustapha Sonko aujourd'hui, il est dans les tops de toutes les mock drafts du monde. C'est sur le potentiel athlétique, l'intelligence de jeu, enfin, ça reste un des joueurs les plus fantastiques, moi, que j'ai vu sur un terrain. Sa
Bien sûr.
hype serait monstrueuse aujourd'hui.
Ah bah, monstrueuse. Monstrueuse, il avait tout. Physiquement, l'intelligence de jeu, les skills, le handle, il avait tout. Il avait tout pour réussir. Et je pense que le pauvre, c'est quand même un truc dont on doit tellement lui parler que où ils sont. Parce que autant il y a des joueurs où tu te dis, je sais pas, un Stéphane Risacher, par exemple, un Laurent Foirest, un Lindick Beu. Mais Mousse Sonko, en plus, il y avait la discipline, il était coachable. Bon, et puis il était valuable dans le sens où quand il jouait en équipe de France, voilà, il était là, il était présent, il avait du swag. Merde, quoi.
Ouais, c'est clair. Bah, Digbeu qui avait été drafté par les Hawks, hein, quand même, qui
Par
avait fait
Atlanta, ouais.
voilà, Air France, qui avait fait différents summer camps, enfin des summer league aussi, un petit peu. Alors c'est que des joueurs là, je vois leur qu'avance là, mais il y en a plein là qu'on n'a pas cité, des joueurs qu'on marquait. On peut reparler peut-être un petit peu de rapidement de au moins de Joakim Noah, qui reste quand même l'un des Français qui a été All-Star, défenseur de l'année. Tu parlais de son manque d'implication effectivement en équipe de France. Alors on l'a tous déploré. Il revient quand même en 2011, ils font médaille d'argent au championnat
Ah
d'Europe,
ouais,
un truc
il
qui
est
était
énorme.
voilà, énorme, joueur incroyable quand même, passionnant honnêtement,
Bien sûr.
un personnage et un joueur passionnant. Et là aussi, tu disais, il y a des choses dont on parlait au sujet de Boris qui s'appliquent aussi au sujet de Joachim, sur le côté unique en son genre, quoi.
Unique et un amour du basket et un amour. Je pense qu'il y a peu de joueurs comme ça qui ont leurs équipes. Ils pourraient mourir pour leurs équipes et leurs équipiers. C'est-à-dire même des gars avec lesquels ils n'avaient pas forcément d'atome crochu, ils en parlent comme de ses frères. Quoi qu'il arrive, ça restera ses frères, même s'il les a croisés 10 minutes dans un club. Un caractère, une tête de con, une tête de cochon. Il faut savoir que c'est quand même un type qui a été suspendu par ses coéquipiers quand il arrive
Ah,
aux Bulls.
Chicago.
Il est suspendu par ses coéquipiers, par Ben Wallace, qui lui dit, écoute, tu me casses les couilles, tu sais quoi, tu joues pas le Il était suspendu, je crois, un match parce qu'il avait dû arriver en retard. Et il lui dit, tu sais quoi, tu joueras pas le suivant non plus. Suspendu par ses coéquipiers. Alors, quand il raconte ça à JJ Redick ou à d'autres, c'est à mourir de rire. Mais oui, enfin, tu vois, je vous posais la question à Shai et à toi, si aujourd'hui on devait construire une défense qui on mettrait au milieu, mais évidemment, offensivement très limitée. Mais une envie, une rage, un guerrier, comme jamais le basket français en a eu, je pense, dans sa mentalité. J'ai une vidéo en tête où son père vient le voir jouer à Chicago, il joue contre Cleveland, parce que chaque match contre Cleveland était une bagarre, même en saison régulière. Et où il prend une faute, je crois, et il se met, le fameux Joakim, quand il se met à serrer fort les bras, déjà on voyait la star que c'était. Et son père qui est ultra hypé en pleine interview, mais voilà, mais par contre un joueur formé sur le cursus américain, déjà formé sur les terrains new-yorkais, formé au tournoi de Rucker, formé à Dicam, formé à Westford, et puis multiple champion universitaire avec Florida. Mais un personnage d'autant plus attachant que c'est un type qui, oui, il faut le dire, est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, qui n'avait pas besoin forcément de faire ce cursus, mais qui c'est pour ça qu'il revient d'ailleurs. Tout le monde lui avait dit, mais pourquoi vous revenez une année de plus avec Florida? Parce qu'il s'était tellement entendu avec ses potes, avec Al Horford, avec Corey Brewer, qu'il n'avait pas envie de se quitter. Et pourtant, un type comme il avait réussi à convaincre Corey Brewer, qui était par contre lui l'exact opposé, c'est-à-dire il n'avait pas vécu dans des beaux appartements à New York ou ou à Saint-Germain, à Paris, tu vois. C'est des gars, il fallait qu'ils fassent vivre leur famille. Lui, il n'avait pas forcément ce besoin-là. C'est pour ça qu'il était un peu détaché de ces histoires et qu'il, lui, par contre, il pensait basket tout le temps et sa relation avec Derrick Rose est merveilleuse.
Mais non, mais tu fais bien de le noter, mais parce qu'au bout du compte, il a quand même fait un sacrifice entre guillemets, parce qu'après le premier titre remporté avec Florida, dont il est MOP, il est projeté, enfin les projections le voient même potentiellement drafté encore plus haut que ce qui a été
quoi.
Le cas. Exactement. Donc c'est
un
une belle histoire,
incroyable.
Cette histoire de l'autre
Et d'ailleurs,
de Florida. Ouais.
Et d'ailleurs, il prend le risque et il le prend pour lui et il le mange à la fin. C'est-à-dire que il est drafté plus bas que ce qu'il aurait dû
Oui.
être la première année. Parce que les attentes étaient plus grandes la seconde, mais il prend le risque à se. Il ne sait pas jouer doucement, en fait. Tu sais, les gars, il y a une anecdote folle où c'est un gars, quand même, qui a collé un coup de coude à Barack Obama sur un match à la Maison-Blanche où ils étaient invités. Et Dwayne Wade raconte ça en disant: mais nous, on était tous là, on faisait attention parce qu'il y avait les services de sécurité, il devait y avoir des snipers sur le toit, au cas où, tu sais, on faisait semblant de rater des shoots et tout. L'autre, il arrive, il prend un rebond, bam, il lui colle le bloquant au rebond, rien à foutre. Tu veux que je vienne jouer au basket? Je viens jouer au basket. C'est ça, c'était ça, Joakim Noah. Et lui, il a été immensément malheureux de l'expérience faite à New York, parce que c'était le rêve de sa vie de porter le maillot des Knicks. Et voilà, et aujourd'hui, la carrière qu'il a, ce qu'il fait avec l'Afrique, le fait de vouloir dire aux gamins: vous précipitez pas, construisez votre propre histoire chez vous, n'allez pas forcément prendre les pas des autres. Enfin, le message est incroyable. C'est un personnage qui vit dans une forêt, presque au Brésil. Enfin, bon, moi, je suis fan. Et la question se pose encore aujourd'hui: est-ce qu'on retire le maillot de Joakim Noah à Chicago? Beaucoup disent: si on ne retire pas Rodman, on peut pas retirer Noah. Je sais pas, moi, je trouve qu'il y a débat. Quand même, un type qui est quatrième au classement du MVP, qui est meilleur défenseur de l'année, qui est le fer de lance avec D. Rose de la dernière grande époque des Bulls, ça se défend.
Ouais. Non, ça, et puis tu parles de défense, et de futur Hall of Famer, Rudy Gobert, qui est lui aussi un personnage clivant, forcément, pas du tout de la même manière qu'ont pu l'être Tariq
Clivant
Abdul-Wahd
chez eux,
ou
parce que
Tony
chez
Parker,
nous,
dont on parlait au début. Oui.
ouais,
Mais,
clivant pour les Américains.
un peu en France quand même. Nous, enfin, je le vois par le biais des commentaires qu'il peut y avoir sur les articles qu'on poste sur Basket Session ou parfois sur les vidéos du CQFR ou d'autres. Bon, on avait fait tout un podcast avec Shai pour parler de Rudy. Je vais pas remettre une couche, mais c'est vrai qu'il est. Je sens. Alors, clivant, le mot peut-être trop fort, effectivement, puis rarement pour la France en tout cas, mais qui fait pas l'unanimité autour de sa personnalité. Voilà, je pense qu'on
Voilà,
peut le
ouais.
dire comme ça. Mais par contre, voilà, on attend de voir, mais je serais très étonné qu'il soit pas élu DPOY cette année. Probable même. Voilà, y a peu de chances qu'il soit pas Hall of Famer au bout de sa carrière. Il lui reste encore pas mal de temps. Voilà, un personnage, moi, que je trouve plutôt attachant malgré tout, mais j'ai hâte de voir la suite. Et après, il y a d'autres joueurs qu'on aurait pu citer. Il y a notamment un joueur qui a claqué 40 points quand même, Rodrigue Beaubois. Là aussi, un mystère pour moi du basket
Je
français.
sais que tu l'aimes bien.
Ben ouais, parce que talent incroyable qui claque 40 points à un moment, il était intransférable. Il était dans. Mark Cuban avait dit genre, tout le monde peut bouger sauf Dirk Nowitzki et Rodrigue Beaubois de l'équipe. Finalement, un joueur aussi qui a eu des pépins de santé et qui est revenu en Europe, qui a fait une très belle carrière et qui fait toujours une très belle carrière en Europe depuis. Je sais pas, toi, s'il y a d'autres joueurs parmi ces. T'es les Français comme ça qui ont fait des passages un peu éclairs, s'il y en a d'autres qui ont une place qui est chère à ton
Il y en
cœur.
a qui n'ont pas fait des passages éclairs, mais il y en a un qui m'a marqué parce que il était quand même le meilleur copain de Kobe Bryant, et ça, c'est un mystère. Ronny Turiaf, qui pareil est de cette génération, personnage complètement à part aussi. Je me rappelle de Ronny Turiaf, tu vois, je vais te sortir une petite anecdote. Quand on avait fait les premières sneaker sessions avec Rivers pendant le Covid, je ne sais plus avec qui on discutait, et on parlait de la fameuse anecdote de Jordan qui avait eu les pieds en sang après le match en 98 où il avait rejoué avec cette Jordan 1 au Garden. Et du coup, j'avais posé la question en disant: mais est-ce que c'est vraiment possible de finir avec les pieds en sang? Et pendant le live, c'était un live, et je vois, il y avait marqué Ronny Turiaf qui marque n'importe quoi. Le mec avait juste dit ça, juste. Non, c'est pas possible, n'importe quoi. Donc c'était vraiment à l'image du bonhomme, éminemment attachant, pote et mascotte un petit peu de ces équipes où il est passé. Et puis voilà, moi, tu parles des joueurs, on a quand même, moi je veux tirer un coup de jabot aux joueurs qui ont été champions NBA. Il y a Yan Mahimi qui avec une vraie place à Dallas, Ronnie avec bon, une place peut-être un peu moins importante, notamment en playoff à Miami à l'époque, mais champion NBA. Il y avait Tsetsupan également avec Milwaukee. Donc on en a du monde. Enfin, je crois que oui, il a eu la bague avec Milwaukee,
Ça,
il me
j'ai
semble.
plus en tête, mais
Il me semble hein,
ouais.
qu'il était dans le roster. Il faudrait vérifier. Mais voilà, on a quand même du monde aujourd'hui qui est inscrit au grand, grand, grand palmarès. Grand, grand palmarès de la NBA. On n'a pas parlé de Nico Batum, mais pareil, une des légendes du basket français dans la NBA, Nicolas Batum. Victor en a parlé cette semaine en disant: j'ai jamais entendu quelqu'un dans la ligue, personne ne dira jamais du mal de Nicolas Batum, humainement et au niveau basket. C'est impossible. C'est une intelligence de jeu, une facilité à rentrer dans des systèmes et à s'intégrer. Bon, on ne lui parle pas de ses coachs à Charlotte, parce que ça, c'est sûr qu'il a eu une expérience difficile. Mais voilà, et puis un type qui a bien compris l'histoire du business, hein. Il était comme un fou, très heureux à LA. On lui dit: hop, à Philly, bon bah voilà, t'es à Philly. Et puis le lendemain, bah, il est au téléphone avec les gars de First Team, et il leur raconte que bah, il est à Philly et qu'il est content à Philly. Il vit son rêve de, voilà, basketteur professionnel. Mais quelle belle, quand même, quelle très belle carrière de Nicolas Batum qu'on voit dans de nombre qu'on verra encore dans de nombreux highlights de l'histoire de la NBA. Notamment, c'est lui qui fait une belle passe décisive pour Damian Lillard sur son shoot
Ah bah
contre
oui, c'est
Houston.
clair.
Donc déjà, rien que pour ça, on le verra à vie là-dessus.
Oui, c'est clair. Mais en fait, ça, en préparant le podcast de cette semaine, c'est impressionnant le nombre de joueurs passés par la ligue. On n'a même pas parlé de Yakuba Diawara. Là, en ce moment, on est encore une fois, on est refait. Il y a bien sûr Victor Wembanyama, donc c'est même pas la peine qu'on en parle aujourd'hui. Mais il y a Bilal Koulibaly qui finit la saison blessé. Mais quel plaisir de le voir sur un terrain. Enfin, comme je le disais dans le CQFR, je regardais les box scores de Washington pour une seule raison, c'est voir le nombre de minutes de Bilal Koulibaly. Je pense que le potentiel est monstrueux, énorme potentiel pour ce joueur-là.
Kevin Serafin,
Kevin Serafin, bien entendu, il y a tout un tas de joueurs
Juan
qu'on n'a même pas
Petro, il
cités
y a des gens
aujourd'hui.
qui ont fait des carrières très très longues en NBA. Ouais.
Ouais. Mais c'est vrai que tu parlais de Yan Mahimi tout à l'heure, je vais remettre un petit mot à son sujet, parce que c'est vrai qu'on a eu la chance de l'avoir comme rédacteur en chef exceptionnel du numéro spécial Spurs, et
Spécial
c'est
Spurs.
vraiment un joueur d'une intelligence très fine, et qui a su se saisir justement de l'opportunité de jouer à San Antonio il a su prendre toutes les bonnes habitudes d'entraînement, de gestion de carrière, etc., pour faire une belle carrière vraiment en NBA, pas forcément aussi médiatisée que d'autres joueurs dont on a parlé pas précédemment, mais finalement, tu sais, j'ai toujours en tête cette phrase de Jalen Rose qui disait que, en fait, quelqu'un lui demandait, ouais, c'est quoi le plus beau compliment qu'on puisse te faire par rapport à ta carrière? Et il dit, c'est d'avoir été un vétéran. Parce qu'en fait, il dit,
C'est
le
ça.
plus dur, c'est pas d'arriver en NBA, c'est d'y rester. Et finalement, les mecs qui font des carrières de 10 ans ou plus, ça reste l'exception des exceptions. Et Yann Mahimi fait partie de cette catégorie.
C'est ça. Et c'est pour moi c'est l'exemple même de la persévérance. Yann Mahimi, c'est le fait de dire: moi je lâche pas, et de savoir travailler avec ses forces, de savoir connaître ses défauts, de savoir le dire. Mais c'est vraiment entre la draft de sa draft de 2000, 2005, peut-être
2005 ou
2005,
2007, je sais plus.
ouais,
Attends,
peut-être
je vais regarder en
2005, et
direct,
le
comme ça je
fait
te confirme ça.
et un statut de titulaire pratiquement gagné 10 ans plus tard, voilà, bah, ça prouve la persévérance, la patience, et puis un sourire permanent. Voilà, moi j'ai toujours adoré ce joueur. Mais j'adore Kevin aussi, Kevin Serafin. Les anecdotes de Kevin Serafin, quand il commence à raconter les histoires de vestiaire avec Néné Hilario et tout, ça n'a pas de prix sur les bagarres, sur le fait qu'il, parce que lui, il avait peur de personne. Voilà, c'est un peu les héritiers de Joakim Noah, ces gars-là, dans le truc. Et je vérifiais, Axel Toupane, il est aux Bucks de Milwaukee en 2021.
Ah bah bien vu. Bien vu, je me rappelle qui était
Voilà.
passé, je me rappelais plus de l'année. Et pour Yann Mimi, j'ai vérifié, c'est bien draft 2005. Et c'est, il est parti 2 ans plus tard. Donc c'est pour ça que j'avais 2007 en tête. Mais bien vu pour tout ça. Et puis il y en a d'autres à venir. Je vous invite à suivre notamment le parcours d'un joueur comme Nathan Soliman, là, qui fait énormément parler de lui en ce moment, qui est encore à l'INSEP et qu'on annonce aussi comme un futur très grand. L'avenir des joueurs français en NBA, enfin, il y a encore un paquet de joueurs, je pense, qui vont être amenés à briller dans cette ligue.
Ah bah oui, on avait Tony qui avait enfin on avait Tariq Abdulwahed qui avait ouvert le Velux, Tony qui a ouvert la fenêtre, et là t'as Victor qui a ouvert les portes en grand en disant petit petit petit, allez allez allez. On verra si c'est une chance ou une malédiction, parce que ça peut l'être, hein. Tu te rappelles c'est comme les seuls Européens qui venaient en NBA, c'est ce que je te disais, Greg Popovich qui disait à l'époque, à RC Buford, si tu me ramènes pas soit un cousin de Nowitzki, soit un shooter qui finit en itch, moi
Ouais.
je veux pas d'Européens. Donc là, on espère qu'en tout cas, il n'y aura pas une hype trop forte sur des joueurs français, pas encore assez prêts, parce que bon, ça a été un peu le début d'année anus horribilis pour les Français qui se sont retrouvés sans contrat, coupés. Bon, c'était pas facile, facile. Bon, ils s'accrochent, surtout des années de JO comme ça. Bon, on a des gars qui font le choix de rester en NBA, qui font le confiance à leurs agents pour trouver autre chose, pour essayer de se bagarrer, mais est-ce que c'est le bon choix? Ça, c'est un vrai débat, je sais pas ce que tu en penses.
Ouais, bah ça, je pense que c'est vraiment du cas par cas, hein, en fonction des profils et des personnalités, des potentiels. Je te propose qu'on referme là cette page sur les
Juste un
Français
dernier,
de. Ouais,
Alexis
vas-y,
Aggensa,
vas-y.
quand même, on t'en a pas
Ah bah oui,
parlé,
bien
qui a
sûr.
fait une très belle carrière, mais il y en a plein d'autres. Voilà, c'était un nom, mais on va changer de catégorie, en effet.
Et Pierre, quel est ton coup de cœur de la semaine?
Ah, mon coup de cœur, alors, l'un pour les oreilles, un pour les yeux. On commence par lequel? Si tu
Allez,
préfères.
celui pour les yeux, vas-y.
Allez, pour les yeux, on en a parlé, on se l'est teasé, on s'est envoyé des photos cette semaine. Voilà, sur cet incroyable livre, j'ai même pas les mots de cette bande dessinée de Youssef Daoudi et Adrien Mateschka aux éditions Futuropolis. Ça s'appelle Le Dernier Debout. Et c'est l'histoire du combat de Jack Johnson pour être champion du monde, enfin qu'il était déjà le meilleur boxeur. J'ai même pas besoin de vous dire quoi que ce soit sur le graphisme. Le quatrième de couverture est juste incroyable. Tout est autour de l'histoire, bah, du racisme aux États-Unis, hein, tu vois, où on reprend les unes horribles des journaux à cette époque-là, où on parle d'Afrique, où on parle de racines. Voilà, tu vois. Pendant son combat, c'est en fait son histoire pendant ce fameux combat. Voilà, c'est magnifique. J'ai même pas eu le temps de le finir. J'ose pas le finir, en fait. Je le lis tellement lentement parce que j'ai peur qu'il se termine. Voilà, mais vraiment une des plus belles choses que j'ai lues ces derniers temps. C'est magnifique.
Les planches sont
Bravo à
folles.
eux, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ça s'appelle Le Dernier Debout. Et ça vient juste de sortir. Donc c'est magnifique. Voilà. Et une fois que vous avez passé un bon moment à lire ça, je vous conseille d'écouter. Alors, c'est groupe marseillais qui fête ses 20 ans cette année. Donc quoi, les Marseillais, ils restent longtemps ensemble, hein, comme Mayhem. C'est le dernier album de Chinese Man qui s'appelle We've Been Here Before. Chinese Man qui étaient les invités d'Hang Time cette semaine, qui ont été les parrains de l'émission, voilà, qui sont des très bons copains et qui ont sorti ce disque et qui ont commencé une tournée dantesque. Qui sont à l'Olympia la semaine prochaine pour les amis parisiens qui veulent aller les voir ou la voir. Écoutez Chinese Man, c'est très très bien. Les voir en live, c'est encore mieux. Il y a du beau monde dessus. Il y a General Electric, il y a Stojiti qui est Toomy, le MC sud-africain. Il y a toute la bande de d'habitude, Ustar, ASM, Miscellaneous. Voilà. C'est un très très bel album. Un beau disque, comme toujours, ils savent faire Chinese Man. Donc voilà, ça s'appelle We've Been Here Before. C'est de l'indépendant, donc on soutient à fond, comme toujours. Même si c'est fat, hein, Chinese, ils ne peuvent pas jouer partout parce que leur machinerie de live est tellement énorme. Il y a de la vidéo dans tous les sens. Voilà, je vous conseille d'écouter ça. C'est très cinématique. C'est un nouveau virage, on va dire, pour le groupe. Chinese Man, We've Been Here Before. À écouter.
Super, bah, de toute façon, on vous met les liens dans la description.
Bien sûr.
Moi, cette semaine, c'est une pub, en fait. J'étais hyper étonné, j'étais en allant à l'entraînement sur Paris, de voir sur une affiche une pub New Balance avec en icône mon gars Action Bronson, un rappeur américain que j'adore, qui n'a pas du tout le physique pour faire normalement une pub pour des sneakers de running. Donc voilà, je sais pas, j'imagine que certains d'entre vous connaissent Action Bronson. Je vous mets quelques liens aussi. Allez découvrir un petit peu sa musique. Le personnage est super attachant, espèce de chef d'origine. Slave qui fait une carrière dans le rap à New York et qui maintenant est sponsorisé par New Balance, qui a même un modèle à son nom, si je me trompe pas, ou du
Et qui fait de
moins
la cuisine aussi, qui fait des émissions de cuisine.
Absolument, absolument, avec les Fuck That's Delicious, qui a sorti plusieurs bouquins. J'adore ce rappeur, j'adore sa personnalité. Donc, ben, j'ai halluciné de voir Action Bronson dans les rues de Paris en train de faire du running, maintenant qu'il s'est passionné pour le CrossFit, etc. Donc, c'était mon coup de cœur de la semaine.
Et puis en parlant de pub, là il y a Nike qui tease de manière très 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 mystérieuse un fameux logo qui serait apparu dans le sud du Texas en forme d'alien. Non mais tu te rends compte quand même, c'est fou. Alors est-ce que ce sera le logo définitif des futures chaussures ou de la future gamme de Victor Wembanyama? Mais on a quand même Nike qui fait ça en mode, tu sais, zone 51. Très X-Files, il y a ce mystère, ils disent rien, on sait pas ce qui va, on sait pas ce qui se passe, mais l'impact commercial de ce jeune Français sur la ligue, mais quelle fierté,
Ouais.
franchement.
C'est vrai que
Bon,
c'est fou. Hein.
mais ah ouais, non, c'est incroyable, incroyable.
Allez, on passe aux reliques, Pierre.
Ouais, moi j'ai un petit coup de gueule, alors pas
Ouais, alors
gros.
vas-y, vas-y, pardon. Ouais.
Comme toujours sur Draymond Green, parce qu'il me casse les couilles. Cette fois-ci, il m'a bien, bien cassé les couilles, parce que qu'est-ce qu'il fait? On en a parlé des joueurs NBA qui font des podcasts quand ils sont en activité. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que du coup, est-ce que ça fausse pas un peu tout ça? Et je posais la question dans votre CQFR du samedi, savoir si. Bah, je ne sais pas, est-ce que ça dicte pas son comportement, le fait de savoir qu'il va en parler, etc. Bah, j'ai eu ma réponse là, parce que il invite son pote Klay Thompson et il lui demande, ça t'énerve quand je me fais expulser? J'ai trouvé ça, mais tellement honteux de poser cette question à son pote, genre, vraiment, vous en pensez quoi, vous, quand je fais le connard sur le terrain, tout ça pour que l'autre lui dise, bah, il y a peu de chances que Klay Thompson lui dise, ouais, vraiment, tu nous fais chier là. Vraiment, là. Là, Draymond, si tu veux, on a mis un contrat sur ta tête, c'est la prochaine fois on te défonce. Évidemment qu'il va lui dire, mais non, t'es l'âme de l'équipe, l'autre, il est tout hypé, il est là, on dirait qu'on lui donne du clafoutis. Ça m'agace, ça m'agace beaucoup. Voilà, je trouve que c'est une mise en scène vraiment horrible.
Donc, si vous croisez Draymond Green, dites-lui d'éviter de passer par Marseille pendant ses vacances estivales parce que ça pourrait mal se finir pour lui, je
Ah, et puis
pense.
j'ai pas peur, hein. Ah, mais j'irai lui dire. Ah, t'as entendu cette anecdote complètement dingue? Je sais plus qui dit c'est ça. Je sais pas, Gigi Jackson qui dit ça. Qui dit que Victor Wembanyama, il est tellement grand que quand il fait du trash talking, il est tellement en l'air que quand il fait du trash talking, tu l'entends se murmurer. Et il dit, moi je l'entendais en train de dire, don't come in the pain, don't come in the pain, don't come back in the pain. Le mec raconte ça, genre, il était tellement en l'air qu'il l'entend. Il lui fait du trash talking, mais il fait, ah, je n'entends pas.
Très très bon. Non, j'avais pas vu, j'avais
Donc
pas
là, ce
vu
serait un
cette
petit peu
phrase là,
pareil.
magnifique.
Draymond Green, il regarderait en bas, il entendrait un truc, il fait,
Avec la voix des mignons ou
réclame-moi des mignons ou des chipmunks.
Exactement.
Et après, il
Allez, on passe.
écraserait avec ça patoune.
On passe aux reliques, Pierre.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as préparé cette semaine?
Ah, j'ai préparé un. Alors, on parle beaucoup des 60 victoires de Boston, et bravo à eux, franchement, très belle saison des Celtics. Moi, je t'ai sorti un truc de 1996, parce qu'en
Wow.
1996, en fin de saison régulière, il y a une équipe qui est passée à 70 victoires.
Wow.
Voilà, c'était à l'époque Starter qui avait. Alors après, ils étaient passés à 72, mais attendant, pour célébrer les 70, ils avaient fait cette casquette, voilà, qui avait peut-être été distribuée, qui sait, comme ils font parfois au début des matchs NBA. Voilà, il est en super état, donc je suis très très content de cette casquette des 70 victoires des Bulls.
Et ça, t'as retrouvé ça
Je sais pas
récemment
si
ou
ça.
c'était...
Ouais, ça, j'ai trouvé ça récemment sur Vinted. Je crois que c'est un Italien, je crois que c'est un Italien qui vendait ça. Et voilà. Donc, il ne
Ah,
savait pas
super
du tout ce
état.
qu'il avait. Oh, ouais, nickel. Et je n'ai pas payé cher du tout. Et elle est vraiment authentifiée starter, etc. Donc, voilà.
Incroyable. Écoute, moi, comme on parlait des Français qui ont réussi en NBA, ou du moins aux États-Unis, j'ai eu envie de sortir alors ce film Ghost Dog, qui est l'un de mes films préférés, le remake donc de Jim Jarmusch du film de Jean-Pierre Melville, Le Samouraï. Film incroyable, vraiment, j'adore Forest Whitaker, je suis archi fan, ce film est incroyable. Et dedans, il y a un acteur français qui fait un caméo complètement inattendu, c'est Isaac de Bancolet, qui fait un vendeur de glace français qui parle pas anglais, donc c'est déjà ça, c'est assez culte. Et autant, pour être 100% honnête avec toi, Pierre Armand, j'ai pas toujours trouvé qu'Isaac... Enfin, j'ai pas toujours été fan des performances d'Isaac de Bancolet, mais dans ce film, je trouve vraiment très très bon. Donc voilà, j'en profite pour un petit shout-out pour un Français qui a réussi aux États-Unis. Et à l'époque du film, la BO n'était pas
À la
trouvable en France.
BO, la BO.
Et elle était uniquement sortie au Japon à l'époque. Et donc j'avais réussi à mettre la main à
Waouh!
l'époque sur donc, ce
L'import
CD.
japonais de...
Voilà, pressage japonais de la BO. Donc, c'est vraiment la BO avec les sons de Reza. Oui, j'ai oublié de préciser que c'était donc Reza qui fait aussi un petit passage dans le film d'une seconde. C'est lui qui a réalisé la bande-son
Ah, ça c'est beau, hein.
de ce film. Et voilà, avec l'un de mes camarades, qui je passe le bonjour, mon pote Manu, on avait réussi à mettre la main sur donc, le pressage japonais de la BO.
Magnifique.
Puisqu'à l'époque, il n'y avait que ça. Depuis, c'est ressorti. Hein. Depuis, ils ont
Oui,
fait.
c'est bien
Ouais.
sûr.
Une bande avec même des rappeurs qui rappent, qui posent sur les sons, et puis c'est ressorti depuis, mais à l'époque, voilà, il n'y avait que ce pressage japonais qui
Oh,
existait.
superbe. Avec la vraie pochette, parce qu'après, c'était là une pochette bleue sur
Exactement.
laquelle on le voyait en nombre. Oh, magnifique. Oh, ça, c'est une vraie belle pièce. Bravo.
Voilà, merci, merci. Voilà, si vous ne connaissez pas ce film, je vous invite à aller le regarder. Et j'ai regardé, tu sais, je l'ai revu récemment, et il y a même des détails que j'avais pas captés, notamment à un moment, je vous le dis comme ça, si vous le voyez, vous pouvez regarder. Il y a Ghost Dog donc, qui passe en voiture devant un club ou une boîte, et le nom de la boîte, c'est Liquid Sword, qui est le nom d'un album de Jezaï. Donc il y a pas mal de petits détails comme ça placés par Jim Jarmusch dans le film, c'est assez kiffant.
Mais ça, pour ça, il faut avoir la connaissance intemporelle du hip-hop que tu as. Et on en profite quand même, un Français qui marche sur la NBA pour embrasser Benjamin Moubèche, puisque je pense que c'est lui le The Real
Absolument.
MVP de toute cette histoire. Voilà, cette
Là,
émission donc qui s'achève, Théo. On a été ravis de passer ce bon moment avec vous, ce bon moment ce dimanche matin. On vous rappelle que le Hoop Culture, c'est disponible sur la chaîne YouTube Basket Session, bien sûr, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming sur lesquelles vous retrouvez aussi les CQFR, le podcast du lundi, Move Deep, les Late Sessions, etc., etc. Bref, on ne vous lâche pas, on prépare encore plein de jolies choses. Théo, on se dit à la semaine prochaine.
absolument. À bonne semaine à tous, et puis bonne semaine à toi, Pierre.
Salut.
Ciao.